flasque. Et la fume. Et la fume. Bienvenue en direct et sans public dans votre émission de cinéma qui ne dira pas travelling, qui ne dira pas contre-champ, mais qui vous dira tout des trois films sélectionnés ce mois-ci par notre bande de chroniqueurs interstellaires, ivres et fumeux. Sont présents ce soir avec nous Michel Gross du journal satirique Awakiri, ouais, Maria Turi du magazine Télémoisir, ouais, Stéphane Couillard du magazine Citizen Q. Bonsoir. Et Xavier Le Hardeur de Suppo Ciné Live, un magazine scato, mais logique, qui nous fait l'honneur d'être parmi nous ce soir. On embrasse bien fort notre consoeur Diana Tendresse qui anime en ce moment même un colloque sur les relations incestueuses cachées dans le cinéma québécois suite à sa brillante intervention à propos du film Mommy où elle fut très remarquée.
Bonsoir.
Ce mois-ci, le film du week que nous avons chroniqué est Bande de filles de Céline Sciamma.
On peut dire Sciamma ou Sciamma ?
On dit Sciamma en fait.
Sciamma. Du Sciamma. Le film du nom est Magic in the Moonlight de Woody Allen. Et le film du pourquoi pas est Interstellar de Christopher Nolan. Nous terminerons l'émission avec les recommandations très très personnelles de nos chroniqueurs. Mais tout de suite, c'est l'heure du courrier fumeux des auditeurs. Jérôme Degnor remercie Maria Turi pour sa recommandation de la série Downton Abbey. Il écrit: j'ai moi-même découvert une série intitulée Friends il n'y a pas très longtemps et je ne saurais que trop vous la recommander. Merci Jérôme. On sent une pointe d'ironie. Lucien, un inconditionnel de la flasque et la fume, n'a pas compris notre engouement pour Stillwater. Tout m'y est apparu sournoisement convenu, l'adolescente Kyoko louche désespérément sur le pauvre Kaito parce que sa mère est en train de mourir alors qu'il est évident que Kaito aime les hommes, comme son père d'ailleurs. Il trouve grossière la métaphore de l'ouragan pour illustrer la nature toute puissante. La flasque se fourvoie, cette japonaiserie ne vaut pas l'exposition d'Okuzai au Grand Palais. Un auteur qui signe D comme déçu nous écrit: vos choix de films sont nazes et emmerdants.
Oh bah sympa Lucien.
Un film qui dure plus d'1h40, c'est toujours pain in the ass, comme disent les anglos. C'est vrai que c'est pain in the ass plus d'1h40. je suis d'accord avec
moi. J'ai rien à dire à Lucien.
Mais moi je suis d'accord, il s'appelle pas Lucien, il s'appelle
D. C'est ça, c'est à D.
Pardon. Werner Donzo déclare sa flamme à Stéphane Couillard. Ce Stéphane Couillard, quelle découverte, quelle large palette, du long bord au lyrisme amoureux, un génie au goulot.
Bravo.
C'est beau.
Bien tourné.
On l'applaudit pas.
On a reçu aussi un. On a reçu sur le mail un courrier d'auditeur un peu énigmatique.
Recherche projectionniste.
Exactement. Alors, quelle était cette annonce-là? Ça faisait rush proche pour proche prive.
Ouais,
self dem brut pos.
Par contre, il allait loin.
Sadre hot mart.
Tout à fait.
Alors, qu'est-ce que ça voulait dire ça?
Ah bah, moi, je n'ai pas
compris.
Moi,
je n'ai
pas compris.
Non,
c'est vrai.
Ouais. Je ne sais pas ce que ça
veut dire. Peut-être que quelqu'un trouvera. Un bon entendeur, salut.
Un bon entendeur, si quelqu'un comprend cette énigme, on ne sait pas. Bien. Place au film à présent avec tout d'abord le film du oui. Ce mois-ci, le film que nos critiques sont allés voir avec curiosité et entrain est Bande de filles de Céline Sciamma. C'est l'histoire de Myriam, une adolescente de cité discrète dont on devine qu'elle a de très minces perspectives d'avenir, qui va faire la rencontre de trois filles plutôt libérées qui vont l'intégrer à leur bande. On voit alors son rapport au quartier, aux garçons et à la féminité changée. Lorsqu'elle intègre la bande, elle devient Vic comme Victoire et écrit la suite de son histoire. Le casting sauvage effectué par ce film met en lumière des jeunes filles à l'énergie incroyable et au parler très vraisemblable. Personnellement, je regrette quand même qu'à un moment, le film s'éloigne un peu du thème de la bande de filles pour passer dans un film un peu à Scarface, davantage centré sur l'action du personnage principal et son ascension. Un film que j'ai trouvé un peu long, mais tout à fait salutaire et très singulier. Est-ce qu'il y a une lady ici pour donner son avis? Michel Lady Gross,
yeah baby, ok. Étrange quand même de voir 4 filles noires posant sur une affiche de cinéma.
C'est quand même rare qu'on puisse voir ça. Pourtant, c'est pas l'histoire d'un safari sauvage en Afrique, ni l'histoire d'un retour au bled. Intriguant. J'ai pas envie de parler de la couleur de peau des filles, ni du racisme ambiant dans le cinéma français, on en a largement parlé dans la presse, ça m'intéresse pas. Peut-être juste aller le voir parce que c'est un film déjà de Siama et parce qu'elle a réalisé Tomboy. Côté esthétique, on est servi aussi correctement, joli plan, jolie couleur. Et puis moi, personnellement, j'ai très envie de donner au hall ou au captain de la défense pour vous niquer la gueule à un concours de dance. Yes! C'est juste le parcours d'une gamine qui est enfermée dans un carcan, d'une cité, avec ce patriarcat représenté par les grands frères, les hommes, et qui refuse cette femme, cette petite Myriam, qui refuse la soumission. Éviter de faire le ménage comme sa mère, d'être en cloque à 16 ans, sans diplôme, sans rien, qui veut se faire elle-même, qui vit dans un clan pour s'émanciper. Moi, le film m'a finalement pas tant intéressé que ça, je le dis honnêtement. Je l'ai trouvé drôle par moments, je l'ai trouvé un peu cliché, j'ai bien aimé les actrices. J'irai pas recommander ce film, bizarrement. Et après, pendant la séance, je me suis imaginée, en fait, toute seule dans mon délire, à faire le même film avec l'histoire inverse. Une ado qui tente de se construire dans un monde aristocratique, qui en a marre de bouffer du pâté chic dans un hôtel particulier, et qui s'en tire d'une certaine...
Du pâté chic.
Du pâté chic, quoi, du pâté chic.
Ça m'intéresse.
Bah ouais, mais ce sera peut-être ma recommandation prochaine. Dans son hôtel particulier, qui s'entoure d'une certaine cour. Voilà. Moi, je me suis un petit peu chier pendant ce film. J'ai trouvé qu'il y avait des moments un peu intenses, un peu émouvants. Mais clairement, pour moi, c'est un film du nom. Voilà.
D'accord. Maria Curie.
Je suis pas du tout d'accord là-dessus. C'est très net. Pour moi, c'est un film du oui, trois fois oui, même plus... Déjà, c'est pas un film qui est facile, c'est un sujet qui est assez audacieux. C'est vraiment une réalisatrice blanche qui se lie de passion pour ce sujet des bandes de filles au métro Léal. Ça pourrait paraître un peu pointu, et en fait, elle arrive à faire un film, je trouve, qui est d'une grande proximité. On met un petit peu de temps à rentrer dedans, parce qu'effectivement, le jeu des acteurs, ça paraît un peu simplet au début. Et on met un petit peu de temps à rentrer dedans, et puis à un moment, il se passe quelque chose de magique. Elles sont tout bonnement très bien filmées. Elles sont très attachantes, elles deviennent magnifiques aux yeux du premier spectateur venu. Au début, on est quand même collé à leur visage, et il y a un moment où on les trouve vraiment magnifiques, on les trouve drôles. Moi, je pense à la scène du mini-golf qui
m'a
fait quand même beaucoup rire.
Et Lady, il n'y a pas de Lady ici.
Lady, c'est là. Ça s'appelle Sophie.
Et en fait, je crois que je ne suis pas très objective parce que je suis amoureuse de cette façon de filmer qu'elle a, cette proximité qu'elle a.
Elle fait aussi La naissance des pieuvres.
Voilà, La naissance des pieuvres et Tomboy. Tomboy, c'était beaucoup plus discuté parce qu'effectivement, le sujet des genres, du genre, etc. A été posé un peu problème sur ce film. Mais en tout cas, dans ce film-là, j'ai trouvé cette proximité, cette façon de filmer inédite, incroyable. À côté, Xavier Dolan avec ses petits effets d'écran et de clip et de ralenti peut clairement aller se rhabiller. La scène de la chambre d'hôtel avec la musique de Rihanna, moi je la revois en boucle sans problème.
Moi j'ai pleuré.
J'ai trouvé ça...
Oh, c'est mignon.
Ah, j'ai pleuré.
J'ai trouvé ça vraiment incroyable. Je trouve que c'est ravageur comme film en fait. Et le fait que ce soit sur ce sujet-là, moi ça m'a fait poser des questions et je pense que du coup c'est une opération réussie.
D'accord.
Voilà. Et sur la fin, bon, je sais pas, on est un peu, on sait pas trop quoi penser parce qu'effectivement, je pense qu'on arrive un peu au bout du parcours initiatique où elle se heurte à des portes closes, etc. Je pense qu'à la fin, on est un petit peu lassé de cette histoire, mais c'est quand même un film qui marche, qui est assez respectueux, qui est fin et qui, une banlieue qui est bien filmée. On n'est pas en train de vous dire, regardez, vous êtes en banlieue. Il y a quelque chose d'assez fluide. Donc pour moi ce sera un triple oui, mais je sais que je suis pas très objective. Ouais.
Bon. J'ai pas coupé Maria, mais c'est quand même, mais vous l'avez pas trouvé un peu cliché quand même le film parfois? Un petit peu cliché?
Non, je trouvais qu'elle s'était abordée avec assez de finesse. Effectivement, il y a un moment où quand elles sont dans le métro et effectivement qu'il y a cette petite altercation avec l'autre groupe de bande de filles noires de Châtelet, ouais, qui se comportent un peu, c'est presque documentaire animalier. Hein,
ouais, on est d'accord.
Moi c'était marrant.
Oui, c'était drôle.
Mais à part cette scène-là qui est un peu dérapante, ouais, je trouve pas que dans le film, je trouve qu'il y a beaucoup de respect, ouais, beaucoup de proximité.
Je pense que c'est un jeu pour elle aussi et qu'elle se mette en scène elle-même.
Oui, bien sûr.
Au moment où elle s'interpelle comme
ça. Oui,
c'est vrai.
Et de toute façon, il n'y a pas un peu ce truc où quand même elles sont un peu bonhommes, elles, quoi, non, c'est bande de filles, mais c'est un peu bande de mecs l'histoire, quoi. De
oui, aussi. Mais nous, on est bonhommes aussi, non?
Mais oui, mais je veux dire, parce que justement, je trouve que quand elles se mettent le rouge à lèvres comme ça, et ben elles ressemblent encore plus à des mecs.
Prennent la place qu'on leur donne pas.
Exactement. Dans l'avenance. Stéphane Couillard.
Merci, les mecs. Bon, et moi j'aime pas tellement dire du mal. Alors je vais pas en parler beaucoup.
Il a pas aimé.
J'aime pas. Non, pour moi clairement c'est le film du non. On a cette fille qui vit plusieurs vies, mais aucune. On est entre l'action et le rien. La réalisatrice aurait dû se concentrer, je pense, hein, sur les relations entre les nanas, sur la vie du groupe dans la cité. Et non pas se focaliser sur un seul personnage qu'on sent toujours un peu en retrait, jamais vraiment dedans. Sauf dans les scènes qui fonctionnent. C'est la scène d'hôtel, par exemple, où elle chante. En fait, pour moi, c'est la fascination de la réalisatrice hein, pour ces petites nanas qui la font triper. C'est un film de nanas, c'est un film de lesbiennes.
Ah si, mais c'est vrai, il a raison, Dani, c'est pas
du tout.
Mais ça fait pas du cinéma. Ça fait pas du cinéma.
Pourquoi un film de lesbienne?
Clairement, il y a cette fascination qu'elle a pour ses filles, une sorte de désir physique qui transparaît, mais il n'y a rien derrière, il n'y a pas d'histoire, il n'y a pas de cinéma.
Bah, si.
On se met à la
fin. Hein.
Oui, bah, moi je voudrais dire merci à Céline, hein. Je trouve qu'elle nous fait du bien au cinéma français. Non mais c'est vrai, franchement. Et je trouve qu'au niveau de ce qu'elle arrive à retranscrire de l'amitié féminine, j'ai trouvé ça très fort. La scène sur Rihanna, moi je me suis revue avec mes amis sur Véronique Sanson.
Autre temps, autre mœurs.
Voilà, exactement, mais en même temps, la même énergie, solide et solitaire.
Ouais.
Franchement, moi j'ai été vraiment très émue. Et j'ai trouvé super la façon dont elle arrivait à filmer les bâtiments de banlieue, quoi, sans misérabilisme, mais en même temps sans esthétiser à outrance. Je trouve qu'elle arrive à situer à une distance très juste de son sujet. C'est-à-dire on est en empathie, mais on n'est pas tout le temps dans l'émotion. Moi, je déteste le cinéma d'émotion, le cinéma de tire-larme. Et du coup, je trouve que c'est super... c'est très, très bien géré de sa part. Et par contre, en effet, je rejoins un petit peu sur l'idée que finalement, la dernière partie, où c'est vraiment le narratif et l'idée du parcours de la nana, je le trouve pas forcément super judicieux avec les gros dealers. Alors que tout ce qui se passe sur la bande, la bande, la place des hommes, dans une réinterrogation aussi de ce qu'ils sont, je trouve que c'est un film qui interroge le genre, quoi, qui interroge la féminité, qui interroge... on s'y retrouve et pourtant c'est des univers qui sont censés être très loin. Après moi j'habite à Place des Fêtes, donc c'est dédicace, franchement c'est hyper crédible, c'est hyper crédible, les nanas elles sont super, elles sont comme ça quoi, et elles essayent de s'affirmer dans des circonstances un peu compliquées, et c'est pas un film social, mais en même temps c'est ça dit des choses, mais toi je veux dire, non mais c'est pas un film social à la Ken Loach ou
Donc moi j'ai beaucoup aimé. Maria. Ouais, il y a deux petites choses dont on n'a pas parlé. Je voulais juste primo les relations de famille, le truc sœur frère sœur. Je trouve que ça, là aussi elle est très douée, comme elle était très douée dans Tomboy où la petite sœur était très très réussie. Là c'est pareil, on comprend des choses sans qu'elles soient dites. C'est quand même d'un degré de finesse assez intéressant. Et puis deuxièmement, je me souviens plus ce que je voulais dire.
Bravo Maria, vous êtes complètement
libre. Réunissez-vous.
Pas bravo.
Non, mais tournez la place, la chambre. Vous prenez un peu de Cabrière, Maria.
Vous avez remarqué les quatre écrans noirs qui coupent ou pas le film, comme ça, qui coupent.
Les chapitres. Quoi.
Ouais, les chapitres.
Mais c'est ça qui nous éloigne aussi du film social. Quoi. Ah, et la dramaturgie.
Ouais, quand même, vachement. Ouais.
Mais la dernière partie, j'ai pas trouvé. Voilà.
Ouais, on a hâte qu'il y en ait plus au bout d'un moment. C'est clair.
J'ai retrouvé. L'idée, c'est de dire qu'on peut quand même saluer. C'est un film français. Il y a quelques effectivement défauts sur la fin et puis peut-être quelques maladresses sur le message qui est porté par ce film, si tant est qu'il y a un message. Mais quand même, c'est un film qui est très bien filmé, très bien joué, hyper bien réalisé avec cette proximité, comme je disais. Et puis surtout, Céline Sciamma, dans ce film, elle a fait des costumes. Ce qui est assez quand même, c'est un boulot de dingue, hein, parce que la scène où elles sont effectivement aux quatre temps, elles sont toutes habillées un peu. Voilà, il y a un côté un peu. Ça pourrait être une Villette Pumnay, et non, elle arrive à faire quelque chose d'assez personnel, je trouve. Et du coup, pour un film français, j'ai trouvé ça très propre, très entier, très... Voilà, je permets de saluer, parce que c'est assez rare dans le cinéma français d'avoir cette qualité-là de film, surtout pour un film vendu un peu indépendant. Et il y a un petit côté conte aussi, quand même, qui répond aussi un peu à la fin, en mode... Tu sais, transformation, quoi. Femme, homme, tu vois, il y a un truc un peu comme ça, une espèce de symbolique. Je pense qu'il y a des gens qui pourraient mettre le mot genre dessus, pour moi je le mets pas, mais il y a un truc un peu symbolique, tu vois. Enfant, adulte.
Je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de différence avec la nana, par exemple, qui veut être chef d'entreprise, tu vois, et qui va tout d'un coup, en fait, pour être à la même hauteur que les mecs, ne pas avoir d'enfant, adopter des comportements masculins.
Ouais, bien sûr.
Tu vois, je veux dire, c'est-à-dire que quand tu vas accéder à une sorte de fonction un peu supérieur ou je sais pas quoi, tu te grimes en homme. Et c'est pas une question de race ou de tout ça, tu vois. C'est une question de féminité, quoi, tu vois. De rapport, de conditions. Non, c'est plus un film sur la condition féminine, quoi, que sur la condition de fille de cité ou je sais pas quoi.
C'est très fort, je suis d'accord.
Sauf que c'est là qu'on trouve.
Je trouve que c'est là du tout un film sur la cité. Moi, je crois que c'est pas bien exploité.
On la sent pas, mais c'est trop bien la première scène où elles sont toutes ensemble. Ça parle hyper fort, hyper fort, hyper fort. Et elles arrivent dans la cité.
Ah oui,
ouais, c'est là, c'est
vrai. Tu vois,
c'est
elle, elle est où,
ouais. Elle est magnifique, ouais, d'ailleurs. Ouais, est-ce que, et nous, est-ce qu'on fait ça
et nous, est-ce qu'on fait ça ici? Il y a quelques bonnes scènes, et entre, moi, je trouve non, que ça tombe un peu.
Moi, je trouve que c'est d'une finesse tellement.
Quand elle pèle le long, elle pérégrine dans la cité, elle se sépare les unes des autres en fonction des blocs devant lesquels elles arrivent. Et ça,
c'est ça,
d'un coup, elle est toute seule.
Après, non, c'est la meuf magnifique. Qui part, elle marche, tu dis merde, il va arriver un truc.
Ouais, c'est ça, exactement. Et en fait, non, il va rien arriver, elle rentre chez elle.
Je dis d'ailleurs qu'il va arriver rien, parce que sinon, ça serait vraiment.
Oui, ça serait un mauvais film.
Ouais, on dirait Catherine et Liliane. Oui, ah oui, ça serait un mauvais
film. Moi, je trouve qu'il n'y avait pas d'histoire.
Elle soigne vraiment ses cadres. Et elle le fait pas, tu vois. C'est courageux.
J'ai trouvé qu'il n'y avait pas d'histoire, et du coup, il ne restait que cette façon de filmer.
La fameuse lady. Ouais. Début,
qu'est-ce qu'elles deviennent?
Tu la trouves hideuse.
Ah, hideuse toutes. Tu les trouves toutes hideuses.
Elle fait limite Travelo et après tu l'adores.
Elle est belle en fait. Non, elle est belle en fait.
Qu'est-ce qu'elles deviennent? Qu'est-ce qu'elles deviennent? Il y en a une, on apprend qu'elle est vendeuse. Il y a celle qu'on voit à un moment donné dans le café qui porte un enfant et qui
mais c'est une sorte de
parenthèse de la bande d'ailleurs avant.
Avant, celle qu'elle a remplacée.
Ouais, si tu pars dans un truc débile, c'est une sorte de parenthèse en fait, un truc un peu un conte initiatique. C'est juste une façon de s'en sortir. Après, elle en fait quelque chose, ça te plaît ou ça te plaît pas. Mais l'histoire, c'est ça, cette parenthèse-là.
Non, mais bon, peut-être qu'il faudra qu'on revoie ce film. Ça manque un peu de fusée vers Saturne.
Ah, c'est
comme
pas...
un tas, là.
C'est pas une usine à gaz, c'est 2h49, ça c'est sûr.
C'est mais... pas une usine à gaz.
D'accord, donc on a deux grands oui là, avec Xavier et Maria. Et
grands,
plutôt deux grands
ah, ouais, ouais,
Michel et Stéphane.
Toujours les double ce soir.
Très bien, et bien les lecteurs n'auront qu'à se faire leur avis. Place à présent au film du non. Ce mois-ci, le film que nos chroniqueurs sont allés voir en soufflant et en renaclant est Magic in the Moonlight de Woody Allen. L'action se déroule dans une...
dans une... clan, hein.
L'action se déroule dans une luxueuse demeure de la Côte d'Azur où Stanley Crawford, prestidigitateur de renom, joué par Colin Firth, est invité par un ami afin de démasquer la jeune et jolie Sophie Baker, jouée par Emma Stone, prétendument médium, soupçonnée d'abuser une riche famille. Se font face la rationalité d'un personnage désabusé qui ne croit en aucune magie et la croyance candide d'une jeune femme qui prétend redonner de l'espoir aux gens. Une farce légère, une comédie romantique dans laquelle Woody Allen n'est pas trop cruel avec ses personnages, et c'est important de le souligner parce que ses derniers films étaient, je trouve, marqués par une certaine dureté. Woody Allen aurait-il repris goût à l'existence? Est-ce que la magie a opéré, cher chroniqueur Xavier Lerder?
Ouh! Alors moi je trouve que ce film nous interroge sur le droit à mourir dans la dignité. Je pense qu'il faut arrêter
c'est interstellar en fait.
Il faut arrêter de forcer ce premium à sucrer les fraises en public comme ça. Voilà, moi c'est un film que j'ai trouvé très niaiseux. Voilà, j'ai trouvé que c'était vraiment le fantasme d'un vieux de trouver une petite écervelée mignonnette, enfin attirante. Voilà, j'étais le truc sur Nietzsche hyper lourdingue. Après bon, Emma Stone est très jolie. Ouais, chez Suppo, on s'est beaucoup interrogé sur le fait qu'elle mange énormément et qu'elle soit très mince. On s'est dit que c'était vraiment une usine à merde. Hein, donc ça a fait beaucoup, ça a fait beaucoup parler la rédaction de Suppo. On est resté dessus. Bon, alors usine à merde, pas usine à merde. Bon. Voilà. Exactement. Colin Firth, moi j'adore hein, évidemment Colin Firth, côté anglish, assez classe, assez beau et tout. Et ben là, je l'ai trouvé décevant, pas à la hauteur, quoi. J'ai dit Colin, où es-tu? Enfin voilà, d'habitude tu m'émoustilles et là, non, tu m'émoustilles pas du tout, donc je n'ai pas cru à leur histoire, donc je me suis ennuyée. Nous étions trois dans la salle, hein, c'était un matin à 10h.
Il n'y a pas beaucoup pour la défense des filles, mais il y a très peu de gens le matin à 10h.
Les gens
cher. Heureusement, c'est moins cher, voilà, j'ai envie de dire ça. Heureusement, c'est moins cher.
Heureusement, il n'y a pas tant de gens que ça au chômage, visiblement. C'est toute attente.
Donc, voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. En plus, d'habitude, encore, Woody arrive à m'emmener dans le Manhattan ou dans des endroits qui me font un peu fantasmer. Là, bon, le sud de la France avec les belles demeures et tout, non. pareil, j'étais voilà, je
suis restée. Ah, ça n'a pas marché, ça.
Ça n'a pas opéré, le charme n'a pas opéré. Donc voilà, je suis restée froide.
Très bien.
Et frigide.
Stéphane Couillat, est-ce que vous êtes resté froide et frigide?
Oh, vous me connaissez.
Pas très bien, mais non.
Non, écoutez, moi je pense qu'on sera pas d'accord ce soir avec Xavier, décidément. Je sortais de Bande de filles, un film qui m'a pas plus plu que ça. Et ben là, j'étais content avec Woody Allen. Moi, j'ai retrouvé Woody Allen dans toute sa splendeur, dans ce personnage de Stanley. Et du coup, je dois même l'avouer, j'ai revisionné Manhattan et Annie Hall.
J'adore, par contre, Manhattan et Annie Hall. Radiohead, Annie, ça, j'adore.
La puissance du narratif. La puissance du narratif, c'est ce qui manque à Siama et c'est ce qui m'a plu dans ce bouquin, dans ce film.
Trop de culture.
Musique, livre, on fait tout. Donc Woody Allen raconte une histoire. Il raconte une histoire avec des événements, non?
Oui.
C'est pas on prend des gens qu'on observe. Donc une trame narrative et puis des rebondissements. Stanley croit à la magie. Sophie Howard se dévoile. Stanley découvre son amour irrésistible. Il y a une scène que moi j'ai trouvée formidable avec la tante qui lui retourne totalement, qui
démontre. Qui le persuade de son amour.
Exactement, ouais. Donc non.
Bon,
et puis moi ce que j'ai aimé c'est qu'en fait Woody Allen se moque de lui-même dans ce film.
Oui, mais c'est vrai parce que lui il est cynique, désabusé, il se joue un tour en fait.
Mais exactement, ouais, et puis il y va
simpliste, un tour simpliste.
peut-être, mais bon, par exemple, autant faire dans l'exagéré, faire passer du lourd quand on fait disparaître un truc, c'est pas un lapin, c'est un éléphant. Moi j'ai trouvé ça très bien, ça m'a fait rire. Hein. Effectivement. Non, ça vous a pas.
Maria Thury.
Bon, enfin, moi, c'est peut-être.
Vous, c'est peut-être.
Peut-être.
C'est peut-être. Ouais. Mais c'est même oui, peut-être.
Non, c'est peut-être.
C'est
peut-être.
Oh, oui,
c'est peut-être,
ouais,
parce que le oui, je le garde.
Vous pouvez dire plusieurs oui, hein.
Alors, oui, peut-être.
Alors, oui, peut-être. Maria Thury.
Eh bien, moi, Woody m'a ennuyée. Si c'est une farce, elle n'est pas très légère. Très nettement, si c'est un bouquin, il me tombe des mains. Bon, il y a un bon rythme. Ça, on ne pourra pas lui enlever ça par rapport à d'autres Woody Allen qui étaient vraiment objectivement très chiants. On aime bien Colin Firth. On trouve qu'il a pris un peu de carrure depuis, effectivement, depuis Bridget Jones. Hein, il a un peu la classe. Donc voilà, il incarne quand même un personnage assez intéressant, ce magicien cynique et cartésien, hein, profondeur des sciences occultes. Mais bon, on se lasse un petit peu vite de cette illusionniste illusionnée, même si quand même la réflexion sur le sujet est assez distrayante. Mais si c'est effectivement Woody Allen qui joue un tour à lui-même, on voit un petit peu quand même les ficelles, on voit très très... On les voit arriver de loin quand même, ces ficelles, le truc de l'observatoire, etc. Donc lui, bon...
C'est niais, la scène de l'observatoire.
Ah, c'est nul.
Colin Firth, quand même, on lui donnera ça, il en impose un peu là-dedans. Par contre, Emma Stone, bon, très effacée, moi j'ai trouvé. Bon, son joli minois sur lequel vous avez fait quelques réflexions, moi je ne le partage pas. Je trouve que c'est assez palot, tout ça. Donc lui, il a un peu stature, mais il est un petit peu tout seul quand même. Hein. Et puis c'est très esthétique. En fait, c'est un tout. Ces films de Woody Allen, si tu voulais, c'est que voilà, il y a ces discours, ces dialogues qui sont très convenus. C'est agréable à regarder, c'est joli. Et en fait, cette distance-là qu'on a dans ce film, cette distance qu'on a avec l'histoire, cette distance qu'on a avec les dialogues, cette distance qu'on a avec les personnages, en fait, je la trouve très pesante. Donc c'est pas très stimulant comme film. À la fin, finalement, il vous reste quoi? Quelque chose qui est pas vraiment incisif. Il y a pas vraiment de message. Quoi. C'est pas très distrayant. Voilà, je trouve que on est un peu écrasé par la lourdeur de ce film qui se voudrait peut-être quelque chose d'assez léger, mais qui finalement vous écrase sur votre fauteuil, même si vous n'êtes que trois dans la salle de cinéma.
Si je puis me permettre.
Donc c'est pas un non. Je dirais que c'est un peut-être parce que Woody Allen mérite quand même qu'on dise que c'est. Il y a des films qui sont moins mauvais que d'autres, mais voilà, ça s'arrêtera là.
D'accord.
Mais c'est vrai que moi. Non mais je pense que je suis un peu aussi vindicatif parce que franchement les premiers Woody Allen, moi ils me plaisent beaucoup.
Mais justement,
les derniers,
justement.
Du coup, là, voilà.
Si je peux me permettre, la scène de l'observatoire qui semble sinigode, il me semble qu'il y a la même dans Annie Hall. Et ça se trouve c'est son dernier film, un testament.
Peut-être
une signature.
On avait Diana Tendresse qui était branchée inceste et maintenant on a
c'est
pas de
brillant
branchée petite théorie du complot.
Je pense qu'on va y venir à la théorie du complot.
Ah bah ça, on va y venir. Ouais. Michel Grosch, votre avis sur le film?
Moi, j'ai rien à dire. Moi, c'est le film du nom. J'ai passé 1h35, 1h40, je sais plus comment on regarde un film agréable, parce que quand même, les costumes sont bien faits, la décoration elle est chouette, ça se passe dans le sud de la France. Moi, j'aime beaucoup le sud de la France. Donc, on est bien, esthétique, décor, ça passe bien. Il aurait pu faire le film pendant 2 heures. Moi, j'étais bien quand même. Ensuite, c'est quand même un bon petit film sur le pessimisme, on est bien d'accord, mais qui n'est pas vraiment, vraiment finalement pessimiste, mais quand même, on a toujours la même avec Woody, les croyances, la foi, les illusions, l'amour, au chiotte, dans le cul, tu vois. Et moi, ce que j'aime bien, tu vois, quand je veux voir un film, c'est d'avoir de l'espoir, des films qui font rêver, des films qui font évoluer.
Avec c'est Woody, ça, si tu veux.
Et bah voilà. Mais justement, en fait, ils se foutent de la gueule des gens finalement qui y croient en disant regardez les gars, vous voyez, vous y avez cru, bah en fait, in the ass, tu vois. Et maintenant,
il te montre juste que la magie, en fait, elle est juste dans quoi? Dans une petite minette écervelée qui a un joli sourire.
Peut-être, mais moi, je l'ai pas vu comme ça, tu vois, parce que dans tout le film, il s'est foutu de ma gueule, en fait, avec cette fameuse voyante, nanana, où tu dis ah ouais, c'est génial. Tu vois, quand la tente lui parle, il commence à avoir le cœur qui bat, tu vois, et puis bah, finalement, bah, on se fait entuber littéralement. C'est pas un film renversant, c'est pas profond. Moi, je paye pas 6,90€ le matin ou 5 ans, je sais pas quoi pour voir ça.
Je trouve que ça sert pas les médiums.
Non, ça sert absolument pas. Les médiums et les gens qui prennent l'amour et voilà. C'est même très lourd, moi je trouve parfois. Moi je trouve ça très lourdingue au niveau. Il n'y a pas de moralité, mais dans les discours, la vie, oui, voilà, machin. Non, ça me fait chier, tu vois, voilà. Et j'aime pas le cynisme, j'aime pas les cyniques. Et puis, au chef Woody. Donc moi, j'ai pas eu.
Celui que j'ai trouvé marrant, c'est celui avec son petit bandonné.
Oui, et heureusement qu'il y a des personnages comme ça, c'est chouette.
Les hommes sont pas mis en valeur.
Non mais objectivement, dernière question, quelqu'un a ri pendant ce film?
Ah oui, non, oui, oui, si, moi j'ai ri.
La seule personne qui a aimé ce film a ri, moi je crois que j'en suis pas arrivée.
Les blagues,
j'aurais préféré, mais...
Genre, ah je suis en train de faire mon trait d'esprit.
Il y avait écrit LOL entre parenthèses.
Vous qui êtes branché un peu théorie et complot, tout ça, est-ce que vous avez remarqué que quand on met le W de Woody Allen à l'envers, ça fait Moody Allen?
Oh, Caroline,
En fait, c'est intéressant.
Je voudrais aussi noter, moi j'ai trouvé qu'Howard, enfin, c'est insignifiant ce que je vais dire, mais.
C'est qui Howard?
Howard, l'ami de Woody et de Stanley, qui joue un tour, ressemblait à James Ellroy. Ça m'a pris tout le film pour le découvrir. À chaque fois que je le voyais, j'avais cette idée.
Ouais, trop pointu, ouais.
J'ai de l'ambition, j'ai de l'ambition.
Vous êtes à deux doigts de parler de traveling.
J'ai de l'ambition.
Les
traveling étaient bons.
Attention.
Les traveling étaient bons, mais attends, Woody peut pas se foirer sur un traveling.
Ils vont pas se transporter.
Donc là on a. Excellent. Donc là on a quand même un oui pourquoi pas
ça
et quand même trois non quoi.
Non, moi je pense qu'il faut aller le voir.
Joli, joli, c'est beau. On applaudit pas, vous savez qu'on applaudissait pas.
Si, c'est beau, c'est beau, bravo.
Tu manges une cacahuète du coup.
Manger une cacahuète.
C'est une amande.
Alors, j'ai donc une amande. Alors. On passe au film du pourquoi pas. Le film du pourquoi pas que nous avons sélectionné ce mois-ci est Interstellar.
Caroline, je peux vous couper? On dit Interstellar.
Ah non!
On dit pas Interstellar.
Interstellar.
On dit Interstellar.
Et comment on prononce alors le nom de l'acteur principal?
Matthew McConaughey.
Non, non, on dit pas ça. Maria, on dit Matthew McConaughey.
Matthew McConaughey.
On va y arriver.
Christopher Nolan, très attendu depuis le succès de la série True Detective. On retrouve un Matthew McConaughey, ancien ingénieur et pilote de ligne, reconverti malgré lui en fermier, dans un futur où les humains au bord de l'asphyxie sont en proie à d'incessantes tempêtes de poussière et où l'agriculture est devenue le dernier moyen de survie. C'est poussé par sa jeune fille, surdouée et passionnée de science, que le héros, dénommé Cooper, va se retrouver embarqué dans une mission secrète de la NASA, chargée de rechercher dans l'univers une autre planète habitable. Un casting qui regroupe entre autres Anne Hathaway, Jessica Chastain, Matt Damon, Casey Affleck et Michael Caine. Comme dans Inception, c'est un film à tiroir aux multiples rebondissements qui nous plonge dans une réflexion sur l'espace-temps et l'existence de mondes pluridimensionnels. Personnellement, hélas, c'est le genre de film qui me donne envie d'adhérer à la théorie du complot, pour le coup. Il me paraît impossible d'aller dans l'espace avec de si gros vaisseaux pleins de boutons et de carlingues. J'ai l'impression de voir de la vieille science-fiction des années 80. Bon, voilà. Chers chroniqueurs, ce film vous a-t-il, comme moi, plombé ou vous a-t-il mis en apesanteur? Stéphane Couillard.
Bon, c'est, c'est, Cette émission a ça de bon que sans elle, je serais jamais allé voir ce film. Et je me suis pris, pour ma part, une claque. Pour moi, tous les ingrédients sont là. Il y a une histoire, des personnages, du suspense, des rebondissements et des émotions. Ok, je suis d'accord, il y a des failles dans le film. La démonstration physique sur le temps, la gravité n'apparaît pas très claire. Les boucles dans le temps m'ont paru assez hasardeuses et pas forcément très cohérentes.
C'est normal que c'était pas dans le futur.
Ouais.
Parce que vous êtes scientifique.
Non.
J'ai quelques notions d'espace-temps tridimensionnel.
Et puis, 5 dimensions, je veux dire.
Et puis, il y a ce pneu qui crève et qui n'est jamais réparé.
Ça vous a intrigué,
ça, Stéphane.
Mais vous êtes toujours les détails, c'est fantastique.
D'ailleurs, je trouvais qu'il ressemblait un peu à...
Monomaniaque.
Mais bon, qu'importe. Moi, j'ai été emporté par le récit. Ça dure 2h50. Bah non, il y a un raccourcissement du temps dans le film. Ça passe comme une lettre à la poste. J'ai même pas eu le temps de penser, j'avais envie d'aller aux toilettes.
Vous alliez dire que vous aviez envie de pisser.
Non, il y a les pisser, c'est ce que j'avais écrit même d'ailleurs. Dans mes notes.
Bah, tu peux le dire, hein,
non,
Stéphane.
Non, je le fais pas.
Dites-le, Stéphane, disez-le.
Donc, moi, ce film, non, vraiment, c'est le film du oui.
Ah oui, parce que quand même, 2h30, c'est un peu le genre de film qui donne envie de faire une appli avec une notation de confort de celle de cinéma.
Non, très bien.
Mais
très
c'est
bien.
Chiant,
très bon.
Il faudrait des films très longs en ce moment.
Ah oui, mais c'est vous qui les choisissez.
C'est vous qui les choisissez.
On peut aller voir les films plus courts.
C'est une torture.
Il faut savoir qu'avant, ils faisaient 5 films à 1 milliard et que maintenant, ils font un film à 10 milliards.
Voilà.
Et forcément, évidemment, ça dure longtemps.
Bien sûr. On reste pas plus longtemps.
Mais la raison.
Ça nous fait mal quand même. Michel Grosse, votre avis.
Bah, moi je pense qu'il faut aller le voir pour le process technique du film qui est quand même exceptionnel. Quand on voit Saturne, Vénus, c'est quand même fantastique. Avec la musique par-dessus un peu électro, c'est génial, t'es complètement transporté. Et moi j'avais les yeux grands ouverts, comme ça. Ensuite, moi j'ai trouvé ça hyper émouvant en fait. Et moi j'ai pleuré pendant une certaine scène du film que je vous raconterai pas parce que pas de spoiler. Bah, c'est le récit de notre petite vie de terrien et de ce qu'il adviendra de notre planète Terre un jour ou l'autre, sans aller trop loin dans les supputations bien sûr. Je trouve que Nolan nous pousse vers une réflexion sur l'évolution, sur notre perception du temps, et ça c'est intéressant. Mmh. C'est très émouvant par ailleurs. Pour la poésie aussi qu'il suscite, étonnamment sur l'amour. C'est magnifique quand même, ce message sur l'amour. Anatawa justement dit que l'amour est là, et l'amour c'est plus que du conditionnement ou intrinsèque à notre évolution. C'est-à-dire que en fait, l'amour, on aime nos personnes qui sont mortes en fait. C'est fantastique, c'est génial, ça nous dépasse. Et puis, pour ceux qui veulent être surpris, émerveillés, bousculés, transcendés, et ben moi je dis, allez voir Interstellar. Moi j'ai beaucoup aimé, pour moi c'est le film du oui, c'est vraiment une... C'est grandiose, j'adorais, et je vais le revoir d'ailleurs, je vais le revoir. Allez, demain je me tape 2h50 de film, j'ai trouvé ça fantastique. J'ai adoré ce film.
D'accord.
Il est fantastique. Très bien. Et Mathieu Malinguay, il est juste... et j'adore ce mec.
Mathieu, il a des petits tics.
Mathieu, mais il est comme ça. Moi, il a des tics de partout, mais c'est fantastique.
Ok.
C'est fantastique, j'adore.
D'accord, Maria Thury.
Ça pousse vers le haut.
Bon, je sais pas si on rejoue en double, en tout cas sur Interstellar, mais bon.
Je n'ai pas vu Interstellar, Maria.
Moi, je vais jouer pour deux, c'est un.
Allez-y, défoncez-le.
Lâchez les chiens.
J'étais pas dans des conditions physiques incroyables pour aller voir Interstellar.
Vous étiez comment ?
Et concrètement, je sais pas si c'est la loi de Murphy ou pas, mais il y a rien de bon qui est sorti de ce film, ou en tout cas pas grand-chose. J'ai un problème avec le propos. J'ai un problème avec le scénario, c'est un énorme fourre-tout, une usine à gaz, pour pas dire autre chose, quand on parle de fusée. Voilà, c'est un peu difficile d'adhérer en même temps à la théorie du complot, à un pseudo-discours écolo où bon, la Terre va mal mais on vous explique pas vraiment pourquoi, à cette grosse dose de patriotisme avec Cooper et Murphy.
Ah, les pionniers, il y a un peu ça quand même.
Ouais. À ce drame...
Mais c'est pas grave, tu vois, le cinéma américain, la conquête de l'espace, c'est toujours représenté.
Oui, mais là, le cinéma américain avait fait, des personnages un peu fragiles, un peu qui s'interrogeaient un peu sur eux, le Batman, le...
Mais là, ils sont complètement
fragiles. Non, mais là, le mec...
Mais si, parce qu'il va retourner sur Terre pour aller sauver ses enfants, il a pas envie de sauver
son enfant. Non, il a cet instinct de vouloir sauver ses enfants et sa famille et tout ça, donc un pionnier américain, et il a quand même cet instinct de dire on ne sauvera pas la Terre, on va juste aller repeupler ailleurs une autre planète, et la coloniser, et on sera les premiers à y être. Il y a ce truc pionnier toujours qui est un peu gros sabot quand même.
Ouais, oui, comme ça,
comme
c'est
pas
trop, c'est pas fou.
Ce truc. Ouais. Excusez-moi, Maria.
Non, mais donc on vous demande d'adhérer à un certain nombre de choses, quoi. Voilà. Il y a le drame familial en plus, il y a une petite dose de mysticisme. Bon. voilà, je trouve. Après, le côté mystique, il y a un truc sympa, c'est effectivement, c'est qu'il y a des belles images. Il y a des trucs de l'espace, il y a des belles images. Alors, c'est pas la troisième Gravity, mais c'est assez joli. Il y a des choses assez voilà, qui vous emportent. Hein. Sur 2h49, il faut bien trouver quand même des petits moments sympas. Donc, c'est peut-être ces images de l'espace qui sont assez agréables. Un acteur dont je ne prononcerai pas le nom, effectivement, top. Une brochette d'acteurs pas mal, mais qui sont quand même pas. Enfin, ils sont quand même très très coincés hein, dans leur rôle, qui sont étroitement écrits. Hein. Moi, j'aime beaucoup Jessica Chastain. Ouais. Bon, ben voilà.
Dior.
C'est la fille vengeresse qui continue à croire. Bon, je sais pas. J'ai trouvé ça assez étroit. Et puis bon, ben, en 2h45, il faut bien qu'on fasse un peu rebondir. Et là, les rebondissements du scénario, j'ai un peu de mal. Et je vais pas parler de la fin parce qu'on n'est pas là pour ça. Mais j'ai eu un gros problème avec la fin. L'idée, c'est qu'en fait, on vous vend une fin comme quelque chose. Voilà, c'est quelque chose, c'est une fin qui vous dépasse. Sauf que pour comprendre en fait cette fin, faut adhérer à une sorte de concept foireux qui est enrobé de science. Bref, quelque chose, on dit ah, c'est génial, mais en fait, je comprends pas. Mais je suis censée trouver ça génial. Et je trouve ça un peu dérangeant de faire des films comme ça en qui se finissent en creux. En fait, pour moi, ça se finit en rien, quoi. Je vois pas trop le sujet de ce film. Si vous voulez voir des images de l'espace, allez voir Gravity. En 3D, c'est encore mieux parce que là, effectivement, il se passe des choses. Donc non, Interstellar, clairement, c'est un an. Voilà.
Xavier, qui n'avait pas vu...
Ah, j'ai pas vu, mais j'étais déçue quand même. Parce que moi, j'ai été prévenue tard. D'accord. Mais j'aime bien Christopher Nolan en règle générale. Et je le remercie de ne pas avoir recasté Marion Cotillard.
Merci pour elle.
Sur Interstellar. Voilà. Mais sinon, j'aurais adoré voir Matthew McConaughey.
C'était le meilleur.
Et Jessica Chastain, que j'adore aussi physiquement. Bah, je les aime tous, j'aurais aimé. Donc voilà, bon bah oui, j'ai pas vu. Bon, j'avais été un peu déçue par Inception parce que je trouvais qu'il avait dans les mains de l'or et qu'il n'avait pas transformé l'essai.
Ah ouais.
Je fais plusieurs images.
J'ai adoré Inception.
Et que du coup, voilà, j'aurais sûrement aimé, je pense, peut-être un peu Interstellar. Ça aurait été le film du peut-être.
Mais est-ce que Maria, Stéphane et Caroline Garçon, vous n'avez pas aimé cette distorsion du temps? C'est-à-dire que le père, en fait, donne des signes à sa fille.
Si moi j'ai aimé cette
histoire, c'est magnifique. Mais
d'accord,
pas spoiler. Mais juste ça, sur le côté.
Excellent.
Alors, ça fait du monde. Je tiens à rien aller le voir.
Vous connaissez un peu la fin, en tout cas. Absolument pas la fin. Non, ce que j'ai dit, ça ne veut rien dire, mais.
Non, mais
ça serait poétique, magnifique quelque
part.
Et si ça existait, et si c'était vrai, on peut quand même le croire avec ce film.
Moi, j'avais quand même quelque chose à ajouter sur ce
film. Mais c'est sûr, il y a un monde dans les trucs du monde.
Il y a un monde dans les trucs du monde.
Une minute. C'est que je crois qu'en fait, ce qui est bien dans la science-fiction, c'est un sujet qui vous dépasse.
Oui.
Et j'ai un petit peu peur que là, je sais pas si c'est Nolan, il y a un peu un gros contrôle quand même. Voilà, c'est un trou noir, mais on n'a pas assez peur, on n'a pas assez peur de l'inconnu dans ce film. Je trouve que tout est très maîtrisé et que du coup, on perd un peu cette magie de la science-fiction qui est quand même de le monde inconnu, les choses qui nous dépassent. Et je trouve que voilà, dans ce film-là, on perd un peu ça, qui est l'essence de la science-fiction, qui est de pas tout comprendre et qu'on arrête d'essayer de nous vendre des concepts foireux de patriotisme ou de je ne sais quoi pour nous vendre une espèce d'épopée galactique. On aimerait bien, peut-être qu'il n'y ait pas de réponse finalement, on aimerait bien rester sur notre fin dans ce film alors que la fin qu'on nous donne est assez
attendue.
Là, j'acquiesce en quelque sorte, mais quand même, oui, moi j'ai beaucoup aimé ce film.
Donc c'est pas un film de science-fiction en fait, vraiment.
C'est génial. J'ai eu des frissons. On avait dit mes cauchemars. Michel qui avait des cauchemars, fait les mêmes cauchemars.
C'est peut-être pas un film de science-fiction. Ouais, c'est peut-être une sorte d'épopée intergalactique, mais pas.
C'est pas un fermier.
Un fermier.
Cultivateur. Oui, c'est un cultivateur en fait. C'est pas un fermier.
C'est un cultivateur, oui, mais bon...
Non, c'est différent. Bon, très bien, c'est différent, c'est important.
Donc, on est plutôt sur un film du...
Bah, du oui, peut-être. Non. Il y a du oui, peut-être et non.
Bon, après, en gros, il faut aller voir Interstellar et éventuellement Woody Allen. Ouais,
Stéphane, non, comme pas...
Eh ben, ce sera filles. Tout le contraire en ce qui concerne. Il y a pas de filles et c'est tout point.
S'il vous plaît, faites ça. S'il vous plaît, faites-le pour nous, pour la France, faites-le.
Non, c'est naze.
Alors très bien, l'heure tourne, chers chroniqueurs, et c'est déjà le moment de donner à nos auditeurs vos recommandations personnelles. Film, télé, radio, spectacle, sextoy, plat picard, et j'en passe. Coup de foudre, coup de cœur, coup d'un soir, dites-nous tout.
Coup d'un soir, dites-nous tout, c'est
qui commence.
Ça.
Moi, je veux bien. Moi, j'en parle. Eh bien, Xavier, votre coup de cœur. Allez, parce que je suis frustrée de ne pas avoir beaucoup parlé sur Interstellar.
Vous pouvez encore dire des choses.
Exactement. Donc, je vous conseille le boudin noir. très énergétique, environ 300 calories au 100 grammes selon le gras qu'il contient. Le veau d'ivoire est un aliment d'hiver par excellence. C'est d'ailleurs en fin d'automne, avant les festivités de Noël, qu'on prépare traditionnellement le boudin. C'est surtout un aliment très riche en fer. 100 grammes apporte 19 mg de fer héminique. Plus facilement assimilable que le fer non héminique.
Beaucoup de chiffres dans
le boudin sec. Soit la totalité des besoins quotidiens de la femme non ménopausée. Il est particulièrement recommandé pour les enfants en période de croissance, les personnes âgées et les femmes enceintes, trois groupes de population souvent carencées, à consommer donc en modérant sa gourmandise pour d'évidentes raisons diététiques. Le boudin noir comme valeur refuge qui, contrairement à François Hollande, ne déçoit jamais.
Bravo,
bravo.
Il y a clairement le boudin, mais si on cherche des sponsors, je pense qu'il faut, y aller là.
On est sur le boudin noir.
Alors je suis exclusivement sur le noir.
Exclusivement le noir.
Avec pas une bande de filles.
Le blanc n'a pas le.
Avec quelle accompagnement.
Se prendre des courriers là.
Oui, des courriers ignobles.
Michel,
tout sur Michel.
Michel est noir, c'est vrai qu'on sait pas.
Oui, personne qui vient de prononcer cette phrase est Michel Grosse.
Mais elle est noire.
Mais elle est noire, elle est pas moche, elle est noire.
Précisément. Stéphane Couillard, votre recommandation.
Ma recommandation. Bon, vous vous souvenez la fois précédente, mon coup de cœur portait sur la tendresse.
Ouais. Tout à fait.
Une petite pensée pour notre amie Diane.
Pour la vomatique aussi.
Qui n'est pas là. Mais ça n'a rien à voir.
Michel.
Bon, aujourd'hui, c'est radicalement différent. Mon coup de cœur sera pour les garçons. Et oui, Caroline. Évidemment. Non,
ce n'est pas.
Mais non, c'est pas du tout ce que vous croyez. Vous savez quel bois je suis fait. Un bois souple, qui sait se faire dur et résistant. D'abord, je voudrais saluer ce premier garçon qui m'a dit son amour sur le site de l'émission. Venez. Ensuite, saluer tous ces garçons qui m'arrêtent dans la rue. Qui pour une poignée de main? Qui pour une tape dans le dos? Qui pour une petite bise? Oui, une petite bise! Qui pour un autographe? Qui pour une photo? C'est touchant, c'est beau.
Vous serez tous.
Ensuite, il y a aussi ce garçon, pétri de talent, qui fait notre générique.
Ah oui.
Et vous le nommerez plus tard. Et puis il y a moi. Les garçons sont formidables.
Bien sûr.
Bref, on a parlé ce soir de films où l'image donnée des garçons n'est pas des plus reluisantes. Je rééquilibre donc avec ce coup de cœur pour les garçons, ma chère Caroline. Mais vous inquiétez pas Michel, la prochaine fois je ferai un coup de cœur sur les grosses.
Oh merci mon Stéphane, vous êtes magnifique.
Encore une fois brillant. Allez, ding ding la machine à courrier. Michel Grosse, votre recommandation.
Alors moi ce soir je voudrais vous parler de Georges Clooney. Une BD. Georges Clooney, une histoire vraie. Aux éditions Tapas de Philippe Valette. Alors c'est vraiment les éditions Tapas. Georges Clooney, c'est l'histoire d'un anti-super-héros qui traque dans le tome 1 une tortue déguisée en ninja. Et au fur et à mesure des pages, on rencontre des personnages franchement déjantés, vulgaires, drôles. Ça va de la pétasse au flic incompétent, ringard et nauséeux, du frangin complètement con et vide, et qui dit à chaque page « PD, PD !» La BD... Encore du courrier. La BD est truffée de fautes d'orthographe. C'est fait exprès.
C'est l'épopée orthographique de qualité.
De qualité.
Parce que c'est l'épopée orthographique de qualité.
On te traite de PD, c'est écrit P-E-Y-D-E-Y. Voilà, parce que c'est important. Et il y a même une photo du vrai Georges Clooney sur le blog du dessinateur Philippe Valette. Et Georges Clooney qui dit au début, je trouvais ça hyper nul. Mais en fait, F-A-L-T-E, c'est vraiment pas mal. Sourire ultra pareil de Georges Clooney. Donc c'est du 100% lourd. En fait. Ce qu'il va faire, Philippe Valette, c'est qu'il sort le tome 2 en fait, de Georges Clooney, une histoire vraie. Ça y est, ça va sortir. Ouais. Et ça s'intitule Georges Clooney, mi-homme, Michel.
Extraordinaire.
Michel, c'est le flic dans le tome 1 et qu'il a mis des crasses et des merdes. Sur son Facebook, à Philippe Valette, on a 13 133 likes. À la place qu'il la fume, on est beaucoup plus. Bon courage Michel, Philippe pardon, et un gros like pour toi et un vrai coup de cœur.
Et bonne félicitations à Georges Clooney qui vient de se marier.
Mais oui carrément, et qui trouve la BD pour le coup, le tome 2, génial aussi.
Ah ouais.
Voilà,
très bien, génial.
Mais Michel.
Maria Thury, votre coup de cœur. Votre recommandation.
Après Downton Abbey, donc.
Après Downton Abbey, oui.
Après Downton Abbey, après le boudin. Après les éditions Tapas et après les garçons. Moi j'ai envie de vous parler du dernier métro. Bon, on dit comme ça, c'est un grand classique de François Truffaut avec Depardieu et Deneuve, mais vous inquiétez pas, en fait je vais pas vous parler de cinéma, je vais vous parler du dernier métro, le vrai.
Le dernier type de métro.
Attendez, c'était le magazine.
Le dernier, l'ultime rame, comme on dit.
La rame de
voilà, parce que il faut rétablir le dernier métro à sa juste valeur. Rappelez-vous, le dernier métro, c'est le nouveau but de ta fin de soirée. C'est un art de vivre, c'est une hygiène de vie, et c'est ta meilleure excuse, le dernier métro.
C'est beau, c'est hyper beau. Il est beau ce coup de cœur.
Pensez à cette petite adrénaline de plonger dans le métro parisien, à ce petit sprint, à cette petite peur de la grille fermée. Une peur qui n'est pas vraiment une peur parce que vous avez bu.
Et on a peur d'en avoir quand on a bu.
Parce que la nuit est accueillante, mais cette petite adrénaline, arrivée sur le quai à Parmentier, avec les petits fêtards d'Oberkampf qui ont leur bière à la main, là vous êtes en terrain connu, bière à la main. Et clairement, ces petits fêtards d'Oberkampf, bah, soit ils vont se coucher, soit ils vont te coucher. Hein. Et cette petite victoire du panneau d'affichage, hein, parce que clairement, quand tu regardes le panneau d'affichage et qu'on te dit prochain train dans une minute, et train d'après dans XX minutes qui clignotent.
Ah oui, c'est clair, ça
fait plaisir. Et ben, c'est que t'as gagné. C'est que t'as gagné, c'est que t'as le dernier. Celui qui va être blindé, mais tu pourras rentrer chez toi. Enfin, quand je dis chez toi, tu rentres peut-être pas vraiment chez toi parce que c'est le dernier métro. Hein. Sauf coup de bol, il te ramène pas vraiment exactement là où tu veux aller. Parce que tu peux pas changer.
Non.
Donc, c'est comme ça que t'arrives à 2h du matin au métro Europe que tu connaissais pas.
C'est sympa, le métro, bien sûr.
La gare Saint-Lazare qui est assez jolie, hein, qui est assez bucolique. Et le dernier métro, bah voilà, c'est quand même un moyen de découvrir que c'est beau une ville la nuit. C'est le meilleur moyen de snobber le taxi parisien qui te fait à chaque fois le coup de j'ai pas la monnaie ou la carte bleue qui marche pas, parce que ça c'est de plus en plus quand même. Hein.
Ouais, carrément. Dis donc, on va avoir des coups.
On aura des coups.
Parce que le taxi, quelque part, t'abdique en fait. Quand tu prends le taxi et que tu t'assois dedans, t'es déjà chez toi. Donc t'as déjà abdiqué sur le fait que ça y est, c'était fini la soirée. Sauf que le dernier métro, bah, c'est ton dernier.
Ça poursuit.
Et toi, qu'on ne vise pas plus souvent dedans. Mais...
C'est ton dernier défi. Et puis le bus de nuit, ce fameux bus de nuit qui doit prendre le relais du dernier métro. Bah, c'est un peu les années 2000 quand même, le bus de nuit. Hein. Je suis désolée de faire ma vieille ringarde, mais c'est un peu glauque. Hein. Ouais. Le bus de nuit, ça sent le vomi. Puis tu connais pas les arrêts, c'est un truc à se retrouver à Shell. C'est vraiment entre Shell et Europe, mon choix est déjà fait.
Chez Supon, on prend beaucoup le bus de nuit hein, après les conférences de rédaction. Ah.
Vous arrêtez à Shell ou pas?
Égal vomi. Bus de nuit, égal vomi.
Alors que le métro. Bah, le métro, tu connais, hein, t'inventes pas des nouvelles lignes, hein, t'inventes pas des nouveaux arrêts, tu les connais déjà, c'est les mêmes que la journée. Et puis je voulais signaler quand même que pour les grands sprinteurs du dernier métro, il y a une application, parce que pour tout il y a une application.
Ah, c'est hein.
Oui, il y a une application sur smartphone.
Move vite.
Oui, qui te permet. Alors je ne donnerai pas de nom parce qu'on n'est pas là pour faire de la pub.
Non, Brenda.
Hein
ah, ta gueule.
Brenda.
Oh non, arrêtez, je suis connue.
Clairement. Non, mais cette application te permet de te mettre une alarme sur le dernier métro qui passe le plus proche de là où tu es, en fait. Donc, c'est-à-dire que dans 20 minutes, tu vas essayer de choper le métro, t'as une soirée.
Pas mal.
Et donc, t'es dernière soirée, tout le monde sort.
Ça commence par un M ou pas, cette application?
Ça veut dire dernier métro en anglais, hein. Après, c'est un accent de merde.
C'est pas comme un métro, quoi, non.
Donc, voilà, ma recommandation, c'est un truc, c'est arrêter d'être bourgeois, retourner vos racines et choper le dernier métro.
Est-ce que je peux l'applaudir?
C'est magnifique.
Ah ouais, on l'applaudit, ouais.
Ce soir. Et voilà, c'est déjà la fin.
Oh, c'est déjà fini.
Non, c'est déjà fini, Michel. On va faire un tag, génial. Le running gag, je remercie pour leur présence éclairante et éclairée les chroniqueurs. Michel Gross du journal satirique Awakiri.
Applaudissez-moi.
Bravo, voilà. Jean.
Maria Thury du magazine Télémoisie.
Ouais!
Stéphane Couillard du magazine culturel
Citizen
Q. Non, c'est fini.
Hey, Xavier, le hardeur de Suppo Ciné Live. Revenez quand vous voulez.
Merci, Tata. Ouais. Hey.
Un grand merci également au très brillant John Lanclume, qui réalise le générique de l'émission.
Et que j'aime beaucoup.
Pour réagir et nous écrire, chers auditeurs, envoyez-nous vos courriers fumeux par email à l'adresse flasquefume, un minuscule tout attaché, à gmail.com. Pour réécouter l'émission et la partager, rendez-vous sur notre page Facebook La Flasque et la Fume, ainsi que sur Twitter.
Twitter.
L'émission de ce soir a été animée par moi-même.
Ouais!
Rendez-vous dans un mois pour un nouvel enregistrement de La Flasque et la Fume.
Ouais!